Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office. Ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 10 mai 1400 du calendrier iranien, 2 octobre 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. L'exemption des biens humanitaires est un terrible mensonge, a annoncé la mission iranienne auprès de l'Organisation des Nations Unies. Le ministre iranien de la Défense a mis en garde contre toute action irrationnelle des ennemis. La présence d'Israël dans la région n'entraînerait rien d'autre que l'insécurité, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Et la Syrie appelle à la fin de l'occupation israélienne du Golan. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le général de brigade Mohammad Reza Ashtiani, ministre iranien de la Défense, a mis en garde contre toute action irrationnelle qui proviendrait des ennemis. Le général Ashtiani a écrit sur sa page Twitter « Les ennemis de la nation iranienne recevront certainement une réponse cinglante face à toute action irrationnelle et ignorante et encourront un coût élevé. L'exercice des conquérants de Khaybar a été débuté ce vendredi 1er octobre avec la présence des forces blindées, de l'artillerie, des divisions de drones, de guerre électronique et d'ingénierie avec le soutien d'hélicoptères de l'armée de terre dans la région nord-ouest de l'Iran entre les villes de Poldasht et de Julfa. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a critiqué Bahreïn pour avoir normalisé avec Israël et avoir accueilli le ministre des Affaires étrangères du régime sioniste. Dans une publication sur Twitter, Amir Abdollahian a qualifié la décision de Manama de trahison flagrante contre les Palestiniens et leur cause. Il a souligné que Tel Aviv ne ferait qu'apporter de l'insécurité à Bahreïn et au reste de la région. Il a mis en garde contre la présence du régime sioniste qui est la source de tensions et d'insécurité dans la région. Les réactions sont survenues un jour après que le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, se soit rendu à Manama à l'invitation de son homologue bahreïni pour y inaugurer une ambassade. Les Bahreïnis ont organisé jeudi des rassemblements à l'échelle nationale pour exprimer leur vive opposition à cette visite. le radar tactique Hormoz et le simulateur Shams ont été dévoilés en présence du commandant de la force de défense aérienne de l'armée de la République islamique d'Iran. L'objectif du projet Hormoz est de concevoir et de construire un radar à moyenne portée afin qu'en plus d'extraire les informations de vitesse de la cible, il puisse extraire la distance de la cible avec une grande précision et envoyer des informations de haute qualité au centre de contrôle de tir des missiles de défense aérienne. Le système Shams de fabrication iranienne, en termes d'apparence et de fonction, est conçu en fonction des menaces provenant de la classe des systèmes à longue portée et à travers lui, des scénarios de combat modernes et à jour peuvent être conçus et mis en œuvre. L'envoyé de la Syrie auprès du Bureau des Nations Unies et des organisations internationales basé à Genève a réitéré son appel à Israël pour qu'il mette fin à son occupation du plateau du Golan. Houssam Eddine Alla a déclaré que l'occupation israélienne des hauteurs du Golan et des territoires palestiniens constituait une violation du droit international et des résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Le diplomate syrien a également critiqué l'expansion des colonies israéliennes, la confiscation des terres et le pillage des ressources naturelles dans les territoires occupés. Il a dit que le régime sioniste transfère des colons israéliens dans ces régions conformément à un schéma organisé et systématique de changement démographique. Plus loin dans ses propos, le diplomate syrien a exigé que Tel Aviv mette fin à ses crimes contre le peuple palestinien. Il s'en est pris au régime israélien pour avoir forcé les Palestiniens à quitter leur maison ancestrale et assiéger leur ville et leur village. Au moins 5 civils ont été tués dans une attaque d'artillerie saoudienne contre une ville frontalière de la province de Saada au Yémen. Selon les médias yéménites, près d'une douzaine de personnes ont également été blessées vendredi dans un bombardement sur la zone d'Al-Rafou, dans la ville de Manbé. Une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite et soutenue par les États-Unis a lancé une guerre contre le Yémen en 2015 dans le but d'y rétablir un régime fantoche. Cet objectif n'a pas été atteint, mais la guerre occultée et peu traitée par les médias et l'inaction complice occidentale ont provoqué la pire crise humanitaire au monde selon l'Organisation des Nations Unies. Le Yémen a promis des attaques de représailles jusqu'à ce que Riyad mette fin à son agression et à son blocus d'envergure qui a fait des dizaines de milliers de morts, parmi lesquels un grand nombre de civils. Un rapport de l'Organisation des Nations Unies indique que près de 100 Palestiniens ont été déplacés par la campagne de démolition israélienne menée dans l'est occupé de la ville de Quds au mois d'août. Le chiffre publié par le Bureau des Nations Unies pour la coopération des affaires humanitaires marque le plus grand nombre de déplacements en un mois à Quds occupé cette année. Selon le rapport, 26 maisons palestiniennes ont été détruites au cours de ce mois, soit par Israël, soit par leurs propriétaires. Les autorités israéliennes démolissent régulièrement les maisons des Palestiniens dans les territoires occupés en avançant différents prétextes, notamment le manque de permis de construire. Certains Palestiniens démolissent eux-mêmes leurs maisons pour éviter de payer le coût si le processus est effectué par le régime israélien. Les démolitions par Israël ont fait jusqu'à présent environ 200 personnes sans abri en Cisjordanie occupée cette année. Et enfin, la veuve du journaliste saoudien dissident, Jamal Khashoggi, a appelé les États-Unis à tenir Riyad pour responsable de meurtre brutal de Khashoggi au consulat du royaume saoudien à Istanbul il y a 3 ans. La veuve de Khashoggi a en outre décrit son mari comme quelqu'un qui défendait les droits du peuple saoudien. Elle a fait ses commentaires lors d'une veillée aux chandelles organisée à Washington pour la mémoire du journaliste assassiné. Lors de la cérémonie, elle a également dévoilé un portrait à grande échelle composé des colonnes de Khashoggi dans le journal Washington Post. Pour marquer cet anniversaire, elle s'est rendue à Washington pour une manifestation devant l'ambassade saoudienne et une veillée près du Congrès américain où elle a dévoilé le portrait de Khashoggi réalisé à partir de coupures de journaux. La mission permanente de la République islamique d'Iran auprès des Nations unies a condamné les États-Unis pour avoir imposé des mesures restrictives inhumaines contre l'Iran, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, affirmant que les sanctions illégales privaient le pays de son droit d'avoir accès aux vaccins au moment opportun. Dans une déclaration lu vendredi par le diplomate iranien Mohammad Ghorbanpour devant la 3e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, la mission iranienne a rejeté toute affirmation selon laquelle les biens humanitaires sont exemptés d'interdiction. Nous condamnons fermement l'imposition de mesures coercitives américaines inhumaines, illégales et unilatérale, en particulier pendant la pandémie de coronavirus. Ces mesures illégales qui ont été prises par les États-Unis avec le soutien de leurs alliés visent à confisquer les ressources de l'Iran à l'étranger et à empêcher les pays tiers de commercer légitimement avec l'Iran, en particulier la fourniture de biens humanitaires, a-t-il déclaré. Des mesures coercitives inhumaines, illégales et unilatérales ont privé même la République islamique d'Iran d'accès aux vaccins contre la COVID-19. Il est regrettable que certains pays prétendent avec arrogance que les biens humanitaires sont exempts de sanctions, et c'est un terrible mensonge. Toujours dans sa déclaration, la mission iranienne a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Iran envers les principes et les objectifs de la Charte des Nations Unies, y compris le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays. Il a en outre souligné une approche non sélective des droits de l'homme et de la non-politisation de la question. Les violations des droits de l'homme à grande échelle sont devenues routinières, a-t-il déclaré, soulignant la guerre apparemment sans fin contre le Yémen et le nettoyage ethnique dans les territoires palestiniens occupés par le régime israélien. En fait, ceux qui conseillent les autres sur les droits de l'homme et se présentent comme les principaux défenseurs de la dignité humaine manque non seulement de la détermination et de la volonté nécessaires à cet égard, mais poursuivent également la voie de l'hypocrisie dans l'accomplissement de leurs obligations en matière des droits de l'homme. Ce sont les principaux partisans des criminels dans les terres palestiniennes occupées et des armes sophistiquées qui sont utilisées quotidiennement contre les femmes et les enfants palestiniens et yéménites, a souligné la mission iranienne. Malheureusement, le monde est témoin de crimes horribles commis par les soi-disant porte-étendards des droits de l'homme contre les peuples autochtones. De récentes révélations au Canada sur les crimes contre les peuples autochtones prouvent que les méthodes d'occupation des terres par le nettoyage ethnique sont acceptées par ces gouvernements. La mission iranienne a également souligné que le dialogue et la coopération fondés sur le respect mutuel sont le seul moyen d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme au niveau international, notant que l'utilisation des droits de l'homme comme une arme, l'adoption d'une approche sélective et le recours à deux poids deux mesures ne peut pas aider à atteindre ses objectifs communs. Exprimant ses inquiétudes pour le peuple afghan, en particulier les déplacés, la mission iranienne a déclaré que la situation dans ce pays démontre clairement le vrai visage des États-Unis et d'autres pays qui ont envahi il y a deux décennies sous prétexte de lutter contre le terrorisme et de défendre les droits de l'homme, l'Afghanistan. Le droit au développement est un droit fondamental pour les États en développement. Nous condamnons toute tentative de certains pays d'empêcher le développement des États et de maintenir leur propre monopole absolu sur les relations internationales, a ajouté la mission iranienne auprès des Nations Unies.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va aborder en fait de ce qui se passe actuellement sur le plan politique. À en juger par des informations diffusées par certains médias yéménites, le président fugitif et démissionnaire du Yémen a dit sera limogé dans un proche avenir, bientôt. Son limogeage pourrait même s'avérer en fait imminente, selon en fait ces informations toujours diffusées par certains médias yéménites. Et toujours en fait, la presse yéménite précise que l'objectif en est de rendre le terrain favorable au lancement des négociations élargies, inclusives au Yémen. Et cette information est donnée par ces médias yéménites à un moment où le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis était il y a quelques jours à Riyad, où il a rencontré le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, qui est en fait l'auteur de cette guerre d'agression contre le Yémen qui a commencé en fait en 2015. On va vous en parler avec deux invités dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud de Volley. Maître de Volley, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux spectateurs et bonjour à vous. C'est toujours un plaisir.
Je vous en prie, c'est un plaisir partagé. L'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est une analyste franco-syrienne qui est avec moi toujours depuis Damas pour cette émission par Skype. Il s'agit de Madame Aïssa Midani. Madame Midani, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, à Maître Develé, et puis à toute l'équipe Press TV, à vos téléspectateurs. et merci de l'invitation.
Merci infiniment d'avoir répondu favorablement à notre invitation, Madame Midani. Madame Midani, on va commencer avec vous, notre émission d'aujourd'hui. Première question, quelle analyse portez-vous sur ces récents développements relatifs au Yémen, s'il vous plaît? Madame Midani, est-ce que vous avez entendu ma question, s'il vous plaît?
Moi, j'ai entendu la question, je vous entends bien, mais je n'entends pas du tout, Monsieur De Velay. Je l'entends, mais les syllabes sont complètement confondues et j'entends juste un bruit, quoi, quand il parle.
Je vais en fait prier à nos amis à la régie de résoudre ce problème technique, ce souci technique. Mais en attendant, Madame Midani, on va commencer avec vous. Notre émission d'aujourd'hui, quelle analyse portez-vous sur ces récents développements relatifs au Yémen, s'il vous plaît?
En fait, effectivement, après les défaites successives de l'Arabie Saoudite au Yémen, il y a en fait une. On parle de la position en fait des Américains et des Saoudiens qui veulent reprendre la main d'une certaine manière au Yémen, alors qu'ils sont complètement perdants. Ils veulent aussi regrouper peut-être les forces d'intervention, les forces arabes d'intervention. Mais il est clair que de toute façon, aujourd'hui, la victoire des Yéménites ne fait pas, en fait, elle ne supporte aucune hésitation. On attend bientôt la libération de Maghreb. Les différentes ripostes qui ont touché des centres vitaux au niveau de l'Arabie Saoudite, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan économique essentiellement, effectivement, les centres pétroliers, les villes de Neom, les aéroports, en fait, ça montre bien que effectivement les Yéménites sont en train de gagner. Et à mon avis, c'est ceci ajouté au fait que les Saoudiens essayent, après maintes fois où ils ont proposé de faux cessez-le-feu qu'ils n'ont jamais respecté, de fausses négociations qu'ils n'ont jamais respectées. Là, ils entrent aussi dans une situation où ils veulent faire revivre le démissionnaire, le président, l'ex-président démissionnaire, et puis le déclarer comme étant lui l'interlocuteur officiel et lui le représentant officiel du Yémen. À mon avis, c'est encore une manœuvre. Qui est raté et donc alors qu'il continue quand même à bombarder le Yémen, il continue à faire le siège, il continue à affamer et à continuer la misère du peuple yéménite en entier.
Maître De Velay, selon Madame Midani, c'est une, si vous voulez, manœuvre pure et simple du côté des Saoudiens, mais quand même, il y a cette information qui est tombée par la presse yéménite, comme quoi, du côté saoudien, on est arrivé à cette solution, que la solution, c'est celle du limogeage du président démissionnaire et en fuite du Yémen, Hadij. Votre analyse, s'il vous plaît.
Je pense que vous avez mis le doigt dessus. Je pense que Mansour a pris va servir de fusible dans l'amorce d'un processus de négociation à venir. On ne sait pas exactement quels seront les termes. Le problème fondamental, avant toute évocation d'un processus quelconque, c'est la formulation de la résolution 2216 adoptée en 2015, qui partait du principe, on peut le penser en tout cas, que la correction menée par l'Arabie saoudite serait un travail rapide de leurs opérations militaires. On évoquait à l'époque une promenade de 100 TV durerait 2 semaines. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'était la presse de l'époque. Or, la réalité sur le terrain est tout autre. Non seulement le conflit qu'on attend depuis 7 ans, avec les catastrophes humanitaires sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, même si les médias impériaux n'en parlent pas beaucoup, mais donc une réalité sur le terrain qui voit chaque jour qui passe rapprocher quelque part non seulement la coalition de manière générale, ses pilotes, je peux expliquer d'ailleurs, et l'Arabie saoudite, dans la compétition, sa capacité peut-être même à exister en tant qu'État, si les choses venaient à continuer dans cette trajectoire, à rassembler visiblement des représentants de la Fédération russe, des États-Unis d'Amérique, de l'Arabie saoudite elle-même, directement concernée, et bien sûr, du gouvernement, du salut national. Mais malheureusement, il faut revoir le texte. Parce que le texte prévoyait la réinstallation, si je puis dire, du gouvernement démissionnaire ici, et n'intégrait pas dans son langage la présidence yéménite de Bachar al-Assad, qui a vraiment pris une place prépondérante dans toutes les négociations à venir. Et j'ajouterai à ça le troisième point de la résolution initiale. Portait sur le retour de la résistance des comités de mobilisation populaire de la résistance yéménite et de l'armée yéménite, position qui a été occupée avant 2014, complètement caduque. Et dans ce sens-là, il va falloir ajuster, si je puis dire, le tir, mettre en place les conditions nécessaires en termes de la résolution telle qu'elle est dite, telle qu'elle est amenée à évoluer. Afin que les parties concernées puissent entre la situation qui est grande, qui reflète la réalité telle qu'elle est aujourd'hui et non telle que la solution initiale la décrivait à l'époque. Tout ça, c'est pas que, effectivement, la visite du conseiller à la sécurité nationale, les forces matériées pendant cet échange avec le prince qui est porté sur cette possible sortie de crise. Donc, on a automatiquement derrière le rideau, donc, probablement à une coordination de toutes les parties afin de pouvoir enclencher un processus qui met fin à ce temps de guerre.
La situation, Mme Villani l'a très bien souligné, est catastrophique pour la coalition et au-delà pour les puissances occidentales, dans le sens où. C'est toute la région qui risque d'être impactée dans la façon dont eux considèrent leurs intérêts de manière contraire à leurs intérêts. Ça, c'est évident. Donc, ils essayent de limiter la casse. Maintenant, est-ce que le prince héritier, lui, va se montrer raisonnable ? Il a évoqué la réouverture de l'aéroport international de Sanaa, mais encore une fois, en remettant sur la table cette notion de vol restreint. Je pense que c'est complètement caduque à cette conjoncture pour lui d'expliquer des limitations sur les vols qui seraient amenés à transiter dans cet aéroport. Et on apprend encore récemment que la décision a été prise de confisquer un pétrolier au large des côtes du Yémen. Donc visiblement, ce n'est pas du tout les signes que l'on veut voir ni entendre à Sanaa. J'ajouterai à cela... qu'il est question d'intégrer dans les pourparlers des factions comme le parti frériste Al-Isla, dont je ne vois pas en quoi il est légitime à négocier quoi que ce soit, ainsi que cette soi-disant coalition du Sud qui n'a, aux yeux de Sanaa, aucune légitimité à exister sur le terrain yéménite.
Madame Midani, maître de volée, en fait, estime que voilà. Les signes envoyés par le régime saoudien ne sont pas de ceux que Sanaa veulent entendre, c'est-à-dire ne sont pas convaincants suffisants pour Sanaa. Et réagissant à ces, si vous voulez, récents développements et agissements, un non-responsable yéménite, un non-responsable de la résistance yéménite, a martelé que si l'Arabie des Saoudiens veut la paix, souhaite la paix,
elle doit quitter, si vous voulez, le territoire yéménite et mettre un terme à son agression, Madame Midani.
En effet, de toute façon, c'est vrai que la résistance yéménite est une résistance qui emporte tous les jours des victoires importantes. Et puis, elle a asséné des coups vraiment très violents à l'Arabie saoudite qui, elle, continue à raser le pays, en fait, vraiment par des bombardements massifs, successifs, qui détruisent à la fois les écoles, les mosquées, les monuments, l'infrastructure du pays, etc. Donc en fait, elle ravage le pays complètement. Malgré tout ça, la résistance yéménite a enregistré vraiment de très grandes victoires et est en passe aujourd'hui de libérer la totalité du pays. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'Arabie saoudite et ses alliés américains essayent de remettre sur le tapis des négociations qui sont complètement bidons, des accords à nouveau complètement bidons. Ils font semblant qu'ils sont revenus en arrière et en fait l'interlocuteur yéménite, mais en réalité ils veulent, comme l'a souligné M. Develé, ils veulent revenir à la situation d'avant. Or là, ce n'est absolument pas possible et pas acceptable pour la révolution yéménite et pour la résistance yéménite, étant donné tous les dégâts, tous les martyrs, tout le sang qui a été versé, alors que l'objectif, c'est vraiment la souveraineté du Yémen et sortir complètement de cette domination saoudienne qui fait tout, d'ailleurs, pour dominer le Yémen et continuer à tirer les ficelles des pouvoirs et forces dans le pays. Or, ceci n'est pas acceptable pour la résistance, mais d'un autre côté, il est clair aussi que les Américains mettent la pression pour que cette guerre soit terminée. Ça a été clair dans les différents discours depuis que Biden est arrivé au pouvoir pour arrêter cette agression sans limite au Yémen. Et donc là, l'Arabie saoudite fait semblant. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, la logique américaine est une logique de retrait de la région. Donc aussi, la présence du responsable américain en Arabie saoudite, à mon sens, milite dans ce sens aussi. On ne continuera pas à vous soutenir interminablement. Il faut arrêter les frais et bon. Donc en fait, c'est pour ça qu'il essaye de faire quelque chose qui un faux semblant, je dirais, de proposition qui sera de toute manière rejeté par la résistance yéménite et pour dire que c'est pas de mon fait, c'est de leur fait que la guerre continue. Mais la condition essentielle de la résistance yéménite, ils le disent et ils le rappellent, il faut arrêter de nous agresser, il faut arrêter l'agression, il faut accepter qu'on traite avec nous sur le même pied d'égalité. Nous sommes pour la souveraineté totale de notre pays, c'est le peuple yéménite qui décide le pouvoir et les responsables yéménites et la forme du gouvernement. Ce n'est ni aux Saoudiens ni aux Américains de décider ceci. Donc en fait, ils exigent un respect total de la souveraineté du pays et un respect total de l'ensemble des forces yéménites et une non-ingérence aussi dans les affaires yéménites, quelles qu'elles soient. Donc pour l'instant, ça semble être inacceptable pour les Américains et encore une fois, inacceptable surtout pour les Saoudiens, qui depuis des années cherchent à pratiquer une sorte de, comment dire, une, qui cherche à pratiquer une sorte de tutelle sur le Yémen et une ingérence systématique dans leurs affaires intérieures, dans qui les dirige, comment ils les dirigent, etc. Ils voulaient déplacer des responsables comme des pions, chose qui n'est pas acceptable pour les Yéménites actuellement, surtout après autant de dégâts et d'années de guerre et de, je dirais, d'efforts et de consentis.
Maître de Volet, je viens de faire allusion tout à l'heure à cette visite en Arabie Saoudite du conseiller à la sécurité nationale des États-Unis et sa rencontre à Riyad. C'était, je suppose, lundi avec le prince héritier des Saoudiens. Et Mme Midani, là, il s'agit en fait des pressions exercées par les États-Unis sur l'Arabie Saoudite pour mettre un terme à cette guerre contre le Yémen. Comment peut-on interpréter ces pressions? Les Américains, tout comme les Saoudiens, sont-ils arrivés à cette conclusion qu'ils ont perdu cette guerre contre le Yémen et qu'ils sont contraints de changer de cap?
Oui, je pense que c'est le cas. Je pense que Riyad réalise que la situation est sans issue. Mais la question qui se pose, c'est garder à sauver la face pour le prince héritier. Et visiblement, ce dernier, dans le communiqué qui a été publié suite aux 48 heures de la visite de Jake Sullivan, semble indiquer que même entre les États-Unis, entre Washington et Riyad, il n'y a pas une convergence de vues vraiment très claire. Washington semble pousser vers une solution qui verrait un ajustement cosmétique en la personne du remplacement de Mansour Hadi par quelqu'un qui serait plus à même de, si je puis dire, se montrer raisonnable et prendre en compte les réalités telles qu'elles sont. Mais peut-être que cette personne n'est pas, pourvu qu'elle existe, n'est pas encore, n'a pas été convaincue de servir ce rôle, parce que c'est un rôle ingrat. C'est un rôle qui permettrait de facto au prince héritier d'échapper à toute responsabilité politique, puisque le prince héritier pourrait ensuite s'en laver les mains. Et je pense que même à ce niveau-là, Ben Salman n'est pas convaincu qu'il a forcément perdu la partie, parce qu'il pense qu'il peut jouer la surenchère avec Washington et leur laisser entendre que s'il ne lui amène pas, produise pas le soutien nécessaire pour qu'il puisse aller jusqu'au bout de sa logique forcenée et je dois dire irrationnelle, il est prêt à aller jusqu'au bras de fer, si je peux dire, à aller dans cette espèce de politique de fuite en avant. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce communiqué où effectivement il est question peut-être de revoir, de réinventer, si je puis dire, le contexte juridique au niveau de l'ONU, ce qui semble être la suggestion faite par le nouvel envoyé spécial de cette organisation dans ce dossier. Mais à Riyad, visiblement, on en a cure. On semble toujours, et c'est encore une fois par le biais de ce que Riyad perçoit comme des concessions qui n'en sont pas, que l'on s'aperçoit qu'en fait ils ne sont pas du tout d'accord sur quoi que ce soit à Bimnich ou sur ce dossier. Donc on peut penser que dans ces conditions, la situation militaire va continuer et que le front du salut national va poursuivre ses opérations. Ça passera par la libération de Marib, qui maintenant semble s'imposer vraiment plus que jamais, avant de s'étendre aux autres provinces. N'oublions pas que nous avons aussi cette situation avec les îles au large de la côte au sud, occupées par les Israéliens. Donc plus le temps passe, plus les Israéliens consolident leur position, et aux yeux de Sanaa, c'est une position en tant que membre actif de la résistance qui est complètement inacceptable. Donc je pense que ces espèces d'atermoiements venant de Riyad vont finir par agacer Sanaa, et je crois qu'il y a comme un décalage entre Riyad enfin, la vision de ce que Riyad a pour ses intérêts et pour la conduite des opérations et la réalité telle qu'elle est sur le terrain. Et je pense que Riyad essaye de, dans ce sens-là, faire pression sur Washington. Mais Washington, comme l'a souligné Dr Midani, a d'autres préoccupations géostratégiques et veut essayer de trouver un compromis qui permettrait de préserver l'essentiel avant de se tourner vers d'autres régions du monde.
Maître Arnaud de Volley, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. Mes vifs remerciements vont également à vous, Madame Aïssa Midani, d'avoir été avec moi toujours depuis cette ville Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très
merci
bientôt.
À vous.
Je vous
au revoir.
En prie. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. L'Iran n'accepte rien de plus que l'accord nucléaire dans les négociations nucléaires et n'exige rien de moins que la levée des sanctions prévues dans cet accord. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a souligné que l'Europe s'était rangée du côté des États-Unis en violant le plan global d'action conjoint sur le nucléaire de 2015 et a déclaré que l'Iran n'accepte rien de plus que le plan global d'action conjoint dans les négociations nucléaires et n'exige rien de moins que la levée des sanctions prévues dans le pacte. Saïd Khatibzadeh, qui s'est rendu à Paris pour participer au Forum mondial Normandie pour la paix 2021, a accordé une interview exclusive au journal français Le Monde sur le bilan du déplacement du ministre iranien des Affaires étrangères à New York pour participer à l'Assemblée générale des Nations unies sur les perspectives de pourparlers nucléaires. À la question de savoir que veut dire le très bientôt, le terme utilisé par le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir Abdullahian à New York pour donner une date pour revenir à la table des négociations nucléaires à Vienne, Khatibzadeh a répondu ce que le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé à New York, c'est ce qui a été dit et entendu depuis que le nouveau gouvernement a pris ses fonctions. Il a poursuivi, cette réponse comporte deux volets. La première est que l'Iran réfléchit définitivement à la manière de poursuivre les pourparlers. Cette étape de la réponse a été terminée, ce que signifie que les pourparlers auront certainement lieu. Et la deuxième phase consiste à examiner attentivement les pourparlers, car le nouveau gouvernement veut en clarifier les dimensions et les détails pour entrer dans les négociations de manière active et efficace. Cette phase n'est pas encore terminée, a précisé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères avant de renchérir. Le gouvernement en tant qu'organe exécutif a changé en Iran. Il s'agit désormais d'un nouveau gouvernement qui doit négocier. Les Iraniens ont toujours montré qu'ils parlent avec précision et négocient avec rigueur. Et une fois quelque chose est réalisé, ils l'affichent clairement. Et s'il signe quelque chose, il l'exécute avec précision, a-t-il souligné encore. «
Le commandant de la force terrestre et du corps des gardiens de la révolution islamique a recommandé aux responsables de l'Irak et du Kurdistan irakien d'expulser les éléments des groupes terroristes du nord de l'Irak. Le général Mohammad Pakpour a déclaré que des groupes terroristes et anti-révolutionnaires avaient mis en place des sièges au Kurdistan irakien. Nous avons déjà annoncé que cette situation était inadmissible et que nous y réagirons d'une manière foudroyante, a déclaré le général Pakpour, sans quoi nous détruirons leurs sièges et bases, a-t-il martelé. Nos capacités militaires actuelles nous permettent de lutter contre toute menace, a encore précisé le général Pakpour. La République islamique d'Iran affronte les terroristes et les éléments qui perturbent sa sécurité nationale sans excuses diplomatiques et elle frappe préventivement à l'extérieur de ses frontières, a-t-il souligné. Jeudi 29 septembre, à l'aube, plusieurs sièges du groupe terroriste du Parti démocratique du Kurdistan, PDK, avaient été ciblés de tirs des forces de la résistance. Dans un communiqué, le corps des gardiens de la révolution islamique avait annoncé l'attaque coordonnée des forces de la résistance contre le siège et la réunion des dirigeants des groupes terroristes dans la région du Kurdistan et irakien. Le CGRI a riposté à l'envoi de nombreuses équipes terroristes visant à créer l'insécurité, à commettre des actes de sabotage et à priver de sécurité les habitants braves des provinces de l'Azerbaïdjan de l'Ouest, du Kurdistan et de Kermanshah, avait précisé dans son communiqué le corps des gardiens de la révolution islamique. Le Hezbollah libanais a affirmé avoir abattu un drone israélien ayant violé l'espace aérien du Liban. La résistance a précisé que ses combattants avaient abattu un drone de l'ennemi israélien au-dessus de la vallée de Mariamin, aux alentours du village de Yatter, dans le sud du Liban, frontalier de la Palestine occupé. Cette même source a publié plusieurs images du drone visé par des armes appropriées. De son côté, une source au sein de l'armée d'occupation israélienne a affirmé à l'AFP qu'un drone est tombé en territoire libanais sans plus de précision. Une enquête a été ouverte, a ajouté la même source. La Jordanie a rouvert le poste frontière de Jaber avec la Syrie après une fermeture de 60 jours à la suite des développements sécuritaires du côté syrien. Le correspondant de l'agence Anadolu a signalé que le point de passage a connu une circulation active dès la réouverture du portail principal avec la traversée de dizaines de véhicules dans les deux sens. La mesure est une mise en application de ce qui a été approuvé par le ministère jordanien de l'Intérieur lundi dernier dans le cadre de l'accélération de la normalisation des relations entre Amman et Damas. Le ministère jordanien de l'Intérieur a indiqué dans un précédent communiqué que la réouverture des frontières se fera selon la série de procédures techniques et logistiques pour la réouverture de ce centre à la circulation de marchandises et des voyageurs. Et de souligner que la décision a été prise dans le but de redynamiser le mouvement commercial et touristique entre les deux deux pays frères en tenant compte des mesures de sécurité et de santé requises. Au cours des 10 derniers jours, les relations jordano-syriennes ont connu un bond rapide et considérable sur le niveau de la normalisation avec l'organisation de nombreuses réunions officielle. Le plus important de ces réunions a été celle du chef d'état-major de l'armée jordanienne avec le ministre syrien de la Défense le 19 septembre à Amman, suivi de la rencontre des ministres des Affaires étrangères des deux pays à New York mercredi dernier, puis une visite officielle de quatre ministres syriens à Amman. L'ambassadeur de Chine au Liban a indiqué que la Chine continuera à soutenir le Liban dans le maintien de sa souveraineté, de son indépendance et de son intégrité territoriale. La Chine fera également des efforts pour accroître la coopération avec le Liban afin d'obtenir davantage de résultats, a souligné l'ambassadeur chinois dans un communiqué publié par l'ambassade de Chine au Liban. Les remarques de l'ambassadeur chinois ont été faites lors de sa rencontre avec le nouveau ministre libanais des Affaires étrangères. L'ambassadeur chinois a appelé que cette année marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Liban. Les relations entre les deux pays ont connu un développement harmonieux au cours des 50 dernières années, a-t-il souligné encore. De son côté, M. Bouhabib, nouveau ministre libanais des Affaires étrangères, a fait l'éloge des relations sino-libanaises et a exprimé sa gratitude pour le soutien à long terme apporté par la Chine au Liban et ses aspirations à réaliser de nouveaux développements et une coopération entre les deux pays dans les années à venir. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.